Tu peux m'expliquer pourquoi t'aimes autant Europa Park?
Ben, je sais pas, je trouve qu'il y a des bonnes attractions, genre Eurosat.
Ouais, enfin, la sphère est vachement inspirée de celle d'Epcot quand même, non?
Ouais, enfin, après, il y a quand même Pirates de Batavia, donc.
Ah oui, tu veux dire la copie de Pirates des Caraïbes, quoi.
Bah, en fait, j'en sais rien parce que j'ai jamais fait Pirates des Caraïbes.
Pardon? T'es allé à Disneyland sans faire Pirates des Caraïbes?
Ben, ouais.
Fais immédiatement ta valise. C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Hop hop hop, stop, c'est quoi ce bordel là? Vous avez pas lancé la bonne intro là? Ah, c'est à cause de la phrase? Oui, bon bah ça va, ils ont pas l'exclusivité, j'ai rien que d'y penser non plus. Allez, on reprend. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de DLP Podcast. Podcast assez différent des précédents puisque l'invité du jour n'est ni fan ni passionné de Disneyland. En effet, nous sommes pas mal de passionnés à faire des podcasts ou des vidéos pour donner notre avis sur la destination. Mais nous oublions parfois que le public principal de Disneyland Paris, ce ne sont pas ces 10% de fans, mais bel et bien tous les autres visiteurs. Nous allons donc aujourd'hui comparer la vision d'un passionné avec la vision d'un non-passionné. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Éléonore. Comment ça va?
Ben, ça va super.
Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, tu n'étais pas allé sur le parc depuis 2013, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et on y est donc retourné ensemble en septembre dernier durant le festival du Roi Lion et de la Jungle, où tu as pu redécouvrir le parc du coup. Donc, première question qui me semblait assez importante d'évoquer, c'est du coup quel est ton rapport à Disneyland jusqu'à présent? Donc, quand tu es allé pour la première fois, qu'est-ce que ça t'évoque quand on dit Disneyland par exemple, tout ce genre de choses?
Bon, du coup, la première fois, je m'en rappelle pas trop parce que j'étais toute petite, je devais avoir 2 ans ou
Ouais.
quoi. Donc, ben, en Disneyland, j'y allais que pour les grandes occasions. J'y suis allée pour mon anniversaire, l'anniversaire de mon frère, tout ça, et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. Après, j'ai toujours une âme d'enfant, du coup, ben, c'est pour ça que je me sens proche du parc, on va dire. Et ben, globalement, c'est ça mon rapport.
Ouais. Bah, je pense que c'est le rapport qu'ont pas mal de visiteurs, quoi, parce que généralement, on découvre toujours Disneyland quand on est enfant, pour des événements spéciaux ou des choses comme ça, et ça devient quelque chose de vraiment, rare. Et c'est ce qui fait aussi que chaque visite est, je pense, meilleure, quoi.
Surtout que ça change à chaque fois, donc
C'est
permet
ça.
toujours de redécouvrir.
Ouais. Donc du coup, quand on a prévu de faire cette journée à Disneyland, qu'est-ce que tu attendais le plus de faire durant la journée, du coup?
Bah déjà tout revoir, faire le tour complet du parc,
Ouais.
m'imprégner de l'ambiance, tout ça. Et bah du coup il y a une attraction en particulier que je voulais faire. Je pense que je t'en ai beaucoup parlé, c'était Ratatouille,
Ouais,
absolument.
effectivement.
Parce que je l'ai beaucoup attendu. Enfin, depuis qu'elle est sortie, j'avais pas eu l'occasion d'aller la faire. J'avais vu toutes les bandes annonces entre guillemets, tous les
Ouais,
trucs comme ça, et
c'est
ça
comme
m'avait
moi à l'époque quand
vraiment.
j'ai suivi la construction en direct, tous les jours sur Twitter on suivait la construction et tout le monde attendait cette attraction. Ratatouille, personnellement, c'est mon Pixar préféré, donc à l'époque je l'attendais aussi pas mal. Bon, ce que je pense de l'attraction, on va en reparler,
Non,
mais voilà.
mais voilà, c'est vraiment celle-là que j'attendais le plus à faire.
Donc du coup, si j'ai bien compris, ce que tu recherches plutôt, c'est l'immersion et pas les sensations, quoi.
Oh bah ouais, complètement. Enfin, j'ai envie d'être happée dans Disney et de jamais en ressortir, quoi. J'ai envie
Ouais.
que ce soit magique.
Ouais. Ben, c'est un peu ça, c'est aussi pour ça, je pense que la plupart des gens sont passionnés, et les gens qui viennent pour les sensations sont justement généralement déçus du parc, ou peuvent même se foutre la gueule de certaines attractions, comme Phantom Manor, qui pense être un simple train fantôme, quoi. Alors qu'au final, c'est plus que ça, c'est une attraction avec une histoire qui est développée, qui essaie surtout de créer une ambiance.
Bah justement, je trouve que c'est bien parce que c'est pas juste une attraction de train fantôme
Ouais,
bête et
ouais,
méchante,
ouais.
entre guillemets, il y a matière, quoi.
C'est ce qui fait la différence avec les autres parcs, quoi. Par exemple, toi, je sais que t'aimes beaucoup Europa Park, tu y es déjà pas mal allé, du coup.
Ouais,
Donc,
complètement.
on a été assez cru dans l'intro à propos de ça. Personnellement, je suis jamais allé, mais c'est quand même assez différent. Du coup, j'imagine qu'il y a peut-être un peu moins d'immersion ou.
Ben, il y a quand même de l'immersion, mais c'est pas la même immersion que
Ouais,
Disney parce
c'est pas aussi
que.
détaillé, quoi.
Tu vas te calmer. Non, mais c'est parce que c'est pas la même immersion, parce qu'à Disney, c'est tous les personnages
Ouais.
qu'on connaît, tous les
Oui,
trucs qu'on
ouais.
connaît, là c'est différent.
Ouais, bah justement, ça permet d'enchaîner avec une magnifique transition avec la question suivante. Du coup, quand tu vas à Disney, ce que tu recherches le plus, est-ce que c'est d'être plongé dans des nouveaux univers, donc des choses que tu connais pas comme Phantom Manor ou Pirates des Caraïbes qui à la base était juste une attraction, ou plutôt d'être plongé dans vraiment l'univers Disney, donc Star Wars, Marvel, tout ce qui touche à Disney maintenant quoi.
Bah, c'est un peu des deux, parce que bah, j'aime bien justement être plongé dans les trucs que je connais, les trucs qu'on regardait quand on était petit, ouais. Et tous ces trucs-là. Ça fait des souvenirs, et puis c'est toujours un peu de magie, voilà. Mais aussi j'aime bien donc, tous les trucs comme t'as dit, Phantom Manor et tout, c'est différent, c'est... comment dire ? C'est pas les trucs qu'on connaît, mais c'est bien de découvrir quelque chose de nouveau, des nouvelles histoires, et pas forcément des personnages ouais. Comme, comme la Reine des Neiges qu'on connaît par cœur, et enfin...
Et du coup, si on te demandait par exemple ce que t'aimerais voir dans le futur, logiquement, ce qui te viendrait plus à l'esprit, ce serait une attraction basée sur une licence ou un truc que tu connais déjà, quoi.
Ben, je sais pas trop. Après, je sais qu'ils sont largement capables de me surprendre avec pas forcément une licence. Ouais, donc, qu'ils sont capables de faire quelque chose de très bien.
Ouais. Ben justement, je pose la question parce que la plupart des passionnés ou des fans sont assez critiques là-dessus et trouvent justement que maintenant, il y a cette espèce de politique-là qui fait que chaque nouvelle attraction est basée sur une licence, il n'y a plus de nouvelles attractions originales, et pas mal de personnes trouvent que ça tue un peu la créativité des attractions, quoi, alors qu'au final, pas forcément. Par exemple, là, on a le Land Marvel qui va arriver, c'est une toute nouvelle zone, pas forcément quelque chose qu'on voit dans les films, et qui aura sa propre histoire, ce sera le QG des Avengers, c'est là où ils vont recruter des gens, donc la licence, ça empêche pas forcément à une attraction d'être bonne ou créative, justement. On peut faire une attraction avec une licence, mais quand même créer par-dessus dans la licence.
Ah bah oui, complètement. Ça, il n'y a pas de... Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Après, c'est bien aussi de créer une histoire complètement différente avec pas des personnages qui existent, qui existent déjà. Mais après, comme tu as dit, on peut largement créer sur quelque chose qui existe déjà. Il n'y a pas de problème.
Bah ça, c'est ce que j'attends vraiment, hein, qu'ils me surprennent avec une nouvelle attraction comme Phantom Manor, Big Thunder Mountain ou quoi, qui soit vraiment basé sur rien du tout et qui soit lié à une histoire plus globale. Qui laisse du mystère aussi, parce que Phantom Manor, quand tu fais l'attraction, tu comprends pas forcément l'histoire.
Oui, tu comprends pas direct.
Oui, c'est ça, tu sens qu'il y a quelque chose, une narration, mais tu comprends pas forcément quoi, et ça te donne envie de le refaire, de te faire ta propre histoire pas dessus, en fait. C'est toi qui crée l'histoire à la base des éléments qui sont posés dans l'attraction.
Oui, c'est ça, tu peux avoir ton point de vue à toi, et... Mais c'est ça, comme t'as dit, ça donne l'occasion de le refaire plein de fois, ça donne le temps de t'attacher à l'attraction, de bien comprendre, de revoir, enfin, c'est vache, enfin, c'est bien.
Ok, donc du coup, on a parlé des attractions, mais à Disneyland, il y a aussi des spectacles, des personnages, tout ce qui touche à la nourriture, au shopping. Et donc, dans tous ces domaines-là, qu'est-ce que tu préfères le plus là-bas et qu'est-ce qui t'attire le plus?
Bah, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de spectacles.
Ouais. Bah, alors, pour remettre en contexte, le seul le spectacle qu'on a fait, c'est Le Roi Lion et les Rimes de la Terre.
Qui était
donc,
merveilleux.
On aurait aussi pu faire Jungle Book Jive, mais on a dû faire un choix, on a pu faire qu'un spectacle dans une journée, et j'ai forcé pour qu'on fasse celui-là, bien évidemment. Je sais qu'il y en a certains d'autres podcasteurs qui seront pas du tout d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un très bon show. Donc ouais, du coup, je te laisse développer ce que tu allais dire.
Ben, du coup,
on n'a pas pu voir beaucoup de spectacles.
Ouais, j'ai pas vu beaucoup de spectacles à part celui.
Après, il y a aussi peut-être des spectacles que tu te souviens de quand t'étais plus petit ou des choses comme
ça. Justement, quand j'étais petite, à part la parade, mes parents ils m'emmenaient pas au spectacle.
La parade,
quoi.
C'est vraiment le classique généralement quand on n'est pas le parc. La parade, c'est un classique, on sait qu'elle y est, et tu auras tous les personnages, donc généralement, la plupart des gens font ça, quoi.
Voilà, c'est ça. Bah, mon point de vue de la parade, du coup, c'est, je veux dire, du souvenir que j'en ai, vu que je devais avoir, quoi, 6 ans, la dernière fois que j'ai fait la parade, j'en ai un bon souvenir, parce qu'évidemment, quand on a 6 ans, qu'on voit tous les personnages, ils te font coucou et tout ça, c'est extraordinaire. Après, maintenant, ça me dirait moins de faire la parade, et je serais plus intriguée vers un vrai spectacle,
un vrai
comme
spectacle,
on a vu,
avec
Roi
une
Lyon,
vraie
là.
Mise en scène, une mise en lumière, des costumes, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, la parade, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attiré personnellement, mais ouais.
Après, le spectacle que j'aurais bien aimé voir, c'est celui sur le château à la fin.
Oui, Disney Illumination. Voilà. Du coup, quand on est sorti de Big Thunder Mountain de nuit, puisque c'est un peu ma tradition, faire toujours Big Thunder Mountain à la fermeture du parc, on est tombé sur la fin du spectacle, on était un peu mal positionné. Et donc, t'as pu voir un peu ce que ça donnait.
Bah, justement, en fait, j'aimerais bien... Enfin, j'ai juste pu voir, pu apercevoir, entre guillemets.
Oui.
Et le fait d'avoir vu que la fin, ça m'intrigue de voir tout le reste. Parce que ça avait l'air quand même d'être... Enfin, c'est joli, ouais, c'est des illuminations. Non, mais parce que j'ai jamais vu, tu vois. Donc, je sais pas. C'est pour ça que ça m'intrigue.
Ouais. Hashtag retour Disney Dreams. Non, bah alors, Disney Illumination, oui, c'est vrai que quand on connaît pas le parc, quand on n'est pas habitué à ce genre de projection-là, c'est quelque chose qui est vraiment bien à faire et assez impressionnant parce qu'on a de la projection, des jets d'eau, des feux d'artifice, et les gens s'attendent pas forcément à ce que tous les soirs il y ait un spectacle nocturne comme ça qui soit joué, quoi.
Moi, c'est pas la question de fréquence qui me... Mais c'est surtout le fait de pas avoir l'habitude de voir ça et de l'avoir jamais vu.
Ouais.
Et je trouve que de l'avoir aperçu derrière un buisson vite fait, c'est un peu frustrant.
Ouais, c'est sûr, ouais. Mais honnêtement, Big Thunder Mountain de nuit,
c'est vrai que
ça vaut 10
bien.
Fois vraiment Disney Illuminations, quoi. Mais on surtout... aurait été à l'époque de Disney Dreams, j'aurais pas dit. Là, on serait allé voir Disney Dreams immédiatement, mais...
Ce qui m'a marqué quand on l'a fait, Big Thunder Mountain de nuit, c'est qu'à un moment, t'es à la montée ou quoi,
ouais,
et qu'on a vu les feux d'artifice
ouais,
se lancer,
ouais,
ça c'était
vraiment
bien,
magique,
par contre.
Ouais,
ça c'était super.
Donc du coup, quelles ont été tes attractions préférées?
Alors bon, on va commencer par Ratatouille parce que...
Ah, Ratatouille. Alors là, on va,
c'est une valeur...
lancer le débat, c'est parti.
Alors non, c'est surtout Ratatouille, c'est une valeur sentimentale parce que vu que je l'attendais beaucoup et que je suis complètement dingue de Ratatouille,
ouais.
Et ça m'a fait très plaisir de le voir en attraction. C'est surtout ça, que je l'avais tellement attendu que ça m'a fait presque, entre guillemets, du bien de faire Ratatouille, de découvrir ce que c'était. Après, j'ai bien aimé l'attraction, je trouve que c'était joli, mais le seul truc qui m'a un peu dérangé,
Après, oui.
C'est que c'était pas forcément bien au niveau des écrans, tout ça, c'était un peu...
Ouais, un peu trop d'écran, quoi.
Un peu, ouais, il y en avait trop, il y avait pas assez de... Comme le passage où on passe dans le frigo, là, c'est vachement sympa.
Ouais, 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 bah c'est le meilleur moment de l'attraction,
voilà,
en fait,
clairement. Il y en avait pas assez de ça.
Ouais, ouais, ouais. Donc, trop d'écran, pas assez de décor réel, quoi.
Voilà.
Bah ça, c'est ce que déplorent la plupart des fans. Généralement, c'était une attraction qui était très attendue, et tout le monde a été un peu déçu, parce que... Ok, le système de rail dans lui-même est assez impressionnant, donc il n'y a quand même pas de rail, c'est très fluide. Mais au niveau voilà, des mouvements, par exemple, du rail, ils auraient pu faire quelque chose de plus prononcé, qu'on ait vraiment l'impression de tomber, par exemple, quand on tombe dans le restaurant au début, que le véhicule s'incline, que les écrans soient cachés par des décors, ça c'est vraiment ce qui aurait été pas mal. Mais ce qu'on constate souvent, c'est que la plupart des gens qui... ont pas beaucoup fait d'attractions, connaissent pas vraiment les ride systems, etc. Quand ils font cette attraction là, ils sont quand même impressionnés quoi par tout le système qu'il y a autour.
Bah ça change de voir un truc sans rail, hein, après. Après on va pas se mentir, je l'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a toute la musique et tout.
Ouais, bah la musique ça fait beaucoup.
C'est
hein.
Bah oui,
c'est
complètement
ça.
Hein. Même dans la file d'attente, là, on entend
dans tout le land aussi,
tout,
ouais,
ouais. Ouais,
ouais. Après le land en lui-même est vraiment très réussi par contre. Hein.
Ouais, c'est vachement beau.
OK, donc Ratatouille et
Alors après, j'aurais dit quand même Phantom Manor parce que parce que c'est super bien fait, tout simplement. Et puis j'aime bien que ce soit pas juste bam l'attraction, c'est-à-dire qu'il y a la file d'attente,
ouais, ouais.
Et puis il y a quand tu sors aussi de l'attraction.
Ouais, ouais.
Puis même t'as une belle vue quand t'es en haut.
Oui,
donc enfin relativement, oui c'est bien. Et il y a toute l'histoire, donc bon, Maxime m'a expliqué l'histoire.
Oui,
mais même avant qu'il me l'expliquait, on comprend qu'il y a une histoire et comme on l'a dit plus tôt, ça donne toujours envie de le refaire, de comprendre l'histoire, de regarder tous les détails,
c'est
tout
ça.
Ce qui se passe, tous les personnages.
La
et
musique qui est incroyable aussi,
ouais, ouais.
Avec une montée en puissance vraiment de la musique. On en avait déjà parlé dans un podcast précédent du coup. Donc ça c'est vrai que c'est aussi un truc qui fait quand même pas mal la différence à Disney, c'est que les attractions commencent pas forcément quand tu rentres dans le véhicule, mais avant, donc dans la file d'attente qui peut être développée, comme à Star Tours, Pirates des Caraïbes ou Phantom Manor, où l'histoire commence justement à ce moment-là, et où on commence à te mettre dans l'ambiance avant même... que tu rentres dans l'attraction, et ça c'est pas forcément le cas dans les autres parcs quoi.
C'est vrai qu'on va pas se mentir, mais à Europa Park,
ouais.
C'est pas du tout comme ça.
Ouais.
C'est, il me semble qu'il y en a deux ou trois où avant il y a, mais après sinon...
Ouais, il y a pas vraiment cette notion de te faire rentrer dans l'histoire dès la file d'attente quoi.
Ouais.
Parce que par exemple à Pirates des Caraïbes, tu comprends déjà que tu rentres dans un fort délabré, qu'il y a eu une bataille ou quelque chose, on voit des squelettes, donc on commence déjà à avoir une ambiance, à se dire que ça a pas forcément bien tourné, et après on arrive justement, il y a cet effet de révélation quand on arrive au port, au quai d'embarquement, et où là vraiment l'histoire commence quoi.
Ouais. Bah, de ce que je me rappelle, pour comparer avec Pirates de Batavia comme tu dis, il y a quand même une file d'attente, mais c'est vraiment...
Il y avait une file d'attente.
Oui, parce que bon,
il y avait
voilà.
Une file d'attente.
Mais c'est surtout que j'ai l'impression que qu'ils ont juste balancé des animatronics au hasard.
Mal fait. Animatronics mal fait.
Bon, ça, c'est ton point de vue. Hein.
Je suis désolé. Non, mais alors là, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a juste à regarder une vidéo pour regarder qu'il y a besoin d'huile pour que ça fonctionne, quoi. Et...
Bah, j'en sais
rien. Le moindre mouvement de bras est saccadé, quoi.
Ouais, mais après, j'ai l'impression que ça fait ça partout. Parce que je serais toujours jamais assez satisfaite des animatronics.
Ouais,
parce que
maintenant que t'as fait Pirates des Caraïbes, tu te rends quand même bien compte que c'est largement inspiré, quoi.
Oui, de toute façon, on va pas se mentir, c'est les deux, enfin genre, comment dire, Europa Park est inspiré de Disneyland, il y a pas photo, mais il y a quand même toujours cette petite Enfin, ça me fera pas moins aimer Europa Park.
Oui, oui. Mais c'est aussi une question d'attachement, du coup.
Oui, oui, c'est complètement une question d'attachement. Il y a pas photo, c'est clairement ça.
Ok, donc Phantom Manor, Ratatouille, si tu veux rajouter une attraction, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué.
Après, j'avais pensé, comme on l'a dit tout à l'heure, à Big Thunder Mountain parce que.
La meilleure attraction, il y a clairement pas de débat en fait.
On va débattre un petit peu.
Il y a clairement pas de débat, c'est Big Thunder Mountain, point quoi.
Bah non, mais Phantom Manor quand même.
Big Thunder Mountain.
Bon, bah,
écoute, les deux.
Qui
sont liés d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Puisque la mine de Big Thunder Mountain appartient à Henry Ravenswood, qui est le propriétaire de Phantom Manor. Mais je le re-raconte.
Pour les auditeurs. Bah écoute, moi j'irais quand même Big Thunder Mountain pour une raison. Enfin, non, c'est bien fait, je veux dire, ça va.
Attention là.
Mais attention. Ce qui m'avait plu, c'est quand on l'avait fait de nuit.
Oui, c'est encore mieux
ça,
de nuit.
Ça change tout, c'est vraiment la différence avec le jour est flagrante, quoi. Ça n'a rien à voir. Et le fait aussi que quand on l'a fait, on a pu voir un petit extrait, entre guillemets, du
Disney
spectacle.
Illumination, ouais.
Voilà.
Ouais. Bah, ce qui est vraiment bien avec Big Thunder Mountain, c'est au niveau des sensations. Ça reste familial, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de vitesse,
ouais.
Et en même temps, ça reste faisable un peu pour tout le monde, quoi. Donc, c'est vraiment bien dosé. L'attraction est quand même assez longue. Le fait qu'on passe sous l'eau avant d'arriver sur l'île, ça apporte un petit côté sympa.
Mais il y a un bon équilibre dans l'attraction.
C'est ça, ouais. Donc, du coup, on a parlé des attractions que tu préférais, mais il y a peut-être aussi des attractions que tu as moins aimées. Donc, lesquelles et pourquoi ?
Alors, je dirais.
Alors, en tout cas, si... qui t'ont moins marqué, même si tu les as pas forcément détestés, quoi.
Voilà, c'est difficile de trouver une attraction que j'ai vraiment détestée.
C'est parce que t'as pas fait Armageddon.
Qui
n'existe plus, hein. Il est en poussière pour laisser place à Spider-Man.
Ben, écoute, tant pis, hein. Non, mais on va dire que il y en a vraiment aucune que j'ai détestée. Par contre, il y en a certaines auxquelles je trouve qu'il y a des trucs à redire, quoi. Donc.
Ouais. Allons-y.
Déjà, je dirais, donc, le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles,
c'était un des trucs que tu voulais vraiment faire en main, il me semble.
Oui, aussi, mais pour le souvenir. Voilà, oui, pour le souvenir. Et justement, en parlant de souvenir, quand j'étais petite, je trouvais ça vraiment bien et tout ça. Mais là, le fait d'y être retournée, ça m'a mis comme un choc. J'ai trouvé ça vraiment pas ouf, en fait.
Ouais.
Il y a tellement de choses à exploiter dans Alice au Pays des Merveilles. C'est tellement un truc, enfin justement, il te donne tout dans le film, quoi. Il y a les couleurs, il y a une tonne de créatures et
c'est
tout.
C'est vrai
et...
que le labyrinthe, ça fait quand même ce côté un peu folie qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles, mais ça reste un labyrinthe, quoi, avec 2-3 décors par-ci par-là, c'est pas.
En soi, le parcours est bien,
ouais.
Mais il y a tellement matière à faire, les décors sont un peu cheap, j'ai l'impression.
Ouais. Bah, justement, en Californie, à Disneyland en Californie, t'as une attraction un peu type Peter Pan, Blanche-Neige, Pinocchio, en un peu mieux faite, sur Alice au Pays des Merveilles. Donc t'as des vrais décors, des animatronics, plein de couleurs, donc ça, c'est ce qui aurait peut-être été mieux à Paris, quoi, je trouve.
Pourquoi pas. Après, je suis quand même bien branchée sur l'idée des attractions à pied, entre guillemets.
Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. On en avait parlé dans un podcast précédent, mais il y en a pas mal qu'on n'a pas faites, qui se font à pied d'attractions. Et ça, c'est vraiment sympa, ouais, parce que tu peux vraiment découvrir comme tu veux le truc.
Bah, je trouve que ça fait une encore
c'est
plus
authentique,
immersion,
quoi, ouais, c'est ça.
Parce que t'es vraiment dans le truc.
Ouais.
Et tu te balades comme tu veux, t'es pas, entre guillemets, contrôlé par le manège, quoi, c'est toi qui vas où tu veux. Mais voilà. Donc, du coup, pour en revenir à Alice, c'est vraiment pas assez développé, quoi. Enfin, y a tellement matière, c'est dommage, quoi.
Ouais. Après... Et du coup, si tu devais en ajouter une autre.
Franchement, c'est difficile à dire. Ouais. Hein. J'aime bien, après il y a des...
Même Blanche-Neige, Pinocchio, t'as bien aimé par exemple ?
Bah oui, j'ai bien aimé, mais pareil, tout ce que je dis c'est surtout une valeur sentimentale, après c'est un peu basique.
Bah, c'est la force de Disney, hein, que ce soit pour les films, pour les parcs, ils jouent beaucoup sur la nostalgie et les souvenirs, donc forcément ça marque.
Voilà, c'est sûr que t'es toujours content de faire un Peter Pan ou un Blanche-Neige parce que on les adore, quoi, mais après... comment dire, non, enfin ça va, c'est relativement bien fait, mais je trouve qu'il y aurait toujours moyen de faire exploser le truc.
C'est ça, ouais.
Faire un truc pas mieux, enfin si, mais je sais pas comment vraiment le dire.
Un peu plus ambitieux, quoi. Un peu plus long avec.
Non, en termes de longueur, je trouve que ça reste bien parce que faut aussi penser qu'il y a des enfants et il faut pas faire un truc trop long pour les enfants.
Oui, c'est ça. Les attractions les plus enfantines sont les plus courtes et après il y a les grosses attractions comme Pirates des Caraïbes par exemple qui va durer 10 minutes. Généralement, on est sur du 20 minutes de queue donc c'est largement rentabilisé quoi en termes de temps.
Ouais.
Et voilà, donc ce qui te plairait le moins par exemple, ce serait les attractions plus basiques de fêtes foraines quoi comme Dumbo, Orbitron ou ce genre de trucs-là,
oui.
Des trucs volants, quoi, ou
ouais,
même
c'est
les
ça.
tasses, peut-être, ou ce genre de trucs.
Ben, c'est toujours sympa de les avoir, même comme j'ai dit, pour les enfants, c'est toujours rigolo,
C'est
ça
ça,
leur
il
fait
en
des
faut,
sensations.
ouais.
Après, je suis plus branchée à attraction avec, comment dire, du vrai décor, une
Ouais,
vraie
plus
file
élaboré,
d'attente
quoi.
et tout,
Ouais,
ouais, voilà. Là, enfin, c'est toujours bien d'avoir ça, mais c'est pas
ouais.
mes
Ouais.
préférés, quoi.
Ok. Et donc, du coup, si on passe à l'échelle des landes, quel serait ton land préféré?
Alors, encore une fois, on va revenir sur le sentimental, je dirais Fantasyland, parce
Ouais.
que, ben, tout simplement, il y a tous les trucs de quand on est petit, quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Et
Puis
puis...
c'est vraiment le land qui est lié à Disney, quoi. Il y a vraiment que du Disney, c'est les classiques Disney.
Voilà, c'est ça. C'est, ben voilà, comme tu as dit, c'est les classiques. Donc, et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu vas dans Fantasyland, tu vois tous les enfants qui sont contents, ils sont tous
Ouais,
déguisés, ils
c'est
passent
vrai.
tous un ultra bon moment. Et je trouve que l'immersion est vachement forte dans Fantasyland. C'est là où il y a plus de magie, entre guillemets.
Ouais, bah c'est ce qui est voulu, ouais. C'est vraiment
Mais
le land Disney, quoi.
après, ouais, ça veut pas dire que si j'aime mieux celui-là, j'aime pas les
Oui,
autres, hein,
mais
mais...
c'est comme un classement, quoi. Tu mettrais en premier
Ouais.
Fantasyland, en deuxième, du coup, tu mettrais
En deuxième, je mettrais Frontierland.
à Frontierland, qui est mon land préféré, clairement. Voilà, on va faire les classements en parallèle. Je mettrai du coup en première position Frontierland,
Moi,
parce
en
que toutes
deuxième.
les attractions sont liées, et tout ce qui est lié au western, c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Donc Frontierland, pourquoi en deuxième?
Bah, déjà, comme tu as dit, parce que quand tu m'as. Quand, en fait, je savais pas que.
Tout a une histoire, en fait. La moindre boutique, le moindre restaurant est
Ouais.
lié aux attractions et...
Bah, je savais pas que tout était lié et le
Ouais,
fait que tu
même les
m'aies dit
restaurants
ça.
sont liés, en fait. Ouais.
Ah ouais, lesquels?
Genre le Lucky Nuggets, par exemple.
Ouais.
Tu vois, c'est celui où avant c'était un buffet à volonté, c'est un espèce de saloon, quoi.
Ouais, je vois.
En gros, la dirigeante du Lucky Nuggets, c'est une personne qui était venue une fois sur le chantier du coup de Big Thunder Mountain et qui a trouvé une grosse pépite d'or, en fait, genre la plus grosse pépite d'or qu'ils aient jamais trouvée. Et du coup, grâce à ça, elle a pu ouvrir le restaurant
Restaurant,
et faire un truc assez luxueux et elle est devenue riche. Alors qu'à la base, c'était quelqu'un du petit peuple, quoi, voilà.
ouais. C'est pas mal. Ça le ferait pas remonter dans le classement parce que je fais toujours passer l'émotionnel
C'est
d'abord.
ça, ouais.
Mais c'est pour ça que du coup, ben en fait, je savais pas que c'était lié avant qu'on y retourne en septembre, que tu m'avais tout expliqué. Du coup, ben c'est pour ça que je le mets en deuxième parce que tout est lié, que tout est. Que. Enfin, voilà. C'est cohérent, je sais pas. Fin...
Ouais.
Et puis aussi parce que ça sent très bon la nourriture. Enfin, il y a une bonne ambiance. Non, c'est important de le dire,
Et
je
c'est très
trouve.
important parce que vraiment ça c'est un truc qui moi je sais m'a toujours marqué à Disney, c'est vraiment les odeurs en
Ouais.
fait. Quand j'ai des souvenirs de Disney, c'est souvent lié aux odeurs et dès que je reviens ça me frappe quoi, c'est de partout dans le parc ça sent super bon.
Ouais.
Et voilà, du coup on a été obligé d'aller manger les Faritas le soir quoi, parce
Mais
qu'on a
c'était dès
craqué
le
à cause de
matin,
l'odeur quoi.
ouais.
Dès le matin oui, on aurait été prêt à en manger une clairement à 8h du matin quoi.
Ah ouais, non,
Mais...
complètement. C'est incroyable. Ils sont très forts pour ça. Ça marche bien.
Mais même dans les attractions, les odeurs sont travaillées. Par exemple, dans Phantom Manor, t'as une odeur particulière que tu ne retrouves pas ailleurs, quoi. Et... Ouais.
Bon, après, sans parler de ratatouille, hein, l'odeur dans le frigo.
Oui. On n'en
C'est un peu
reparlera
normal.
pas, quoi. Voilà. Et en deuxième position, du coup, moi, je mettrais plutôt Adventureland. Land qu'on n'a pas beaucoup exploré, mais justement, la majorité du land se fait à pied, et c'est ça qui est vraiment bien. Donc, tu peux vraiment te perdre dans les grottes, monter dans la cabane de Robinson, avoir une vue sur le parc. Il y a vraiment un côté très dispersé en fait. Quand on est au milieu du land, on n'a pas l'impression qu'il y a tout le parc autour. On est entouré par la végétation et tout, et c'est vraiment ça qui est bien, quoi. Cette immersion, et c'est pas comme une simple allée comme Frontierland par exemple, où c'est tout droit. Discoveryland aussi, c'est très quand même quadrillé. Là, c'est vraiment beaucoup plus sauvage, quoi.
Bah justement, celui-là, je le mettrais inclassé, on va dire.
Classé,
Parce que
ça
j'ai
n'existe
pas
pas,
un classé, inclassable, tout ce que tu
ça
veux.
n'existe pas.
Mais parce que j'ai pas eu l'occasion de, comme tu as dit, visiter tous les grottes, tous les passages et
Ouais,
tout.
ouais,
Du coup,
ouais.
ben, je ne peux pas me faire un avis vu que j'ai pas pris le temps de voir exactement comment c'est. Si j'avais pu bien le visiter,
Bah
tout
oui, on
ça,
est juste
voilà.
allé à Pirates des Caraïbes, bah, c'est tout, quoi, ouais.
Ouais, on n'a pas autant visité que comme qu'on a fait 25 fois le tour de Fantasyland.
C'est ça, ouais.
Là, on n'a pas fait le tour, donc je préfère ne rien dire plutôt que d'inventer.
Oui. Donc celui-là un classé, donc en troisième position, du coup tu mettrais lequel? Il reste Discoveryland et Main Street du coup.
Main Street.
Main Street, très bon choix.
Bah parce
C'est mon deuxième
que.
land préféré du coup. Et pourtant il n'y a aucune attraction, mais c'est vraiment tout se fait dans l'ambiance quoi. Les détails
Bah
dans les
ouais.
boutiques, c'est là où tu rentres, là où tu sors, donc.
Non, c'est exactement pour ça que. Bah il est troisième, mais je dirais plus quand même deuxième ex aequo. Enfin, c'est pas vraiment troisième. Je veux dire, c'est pas mauvais qu'il soit en troisième.
Oui, de toute façon, tout se valent, mais s'il
Voilà.
faut faire un classement, il serait troisième, quoi.
Ouais. Même parce que c'est le début, quoi. C'est l'entrée, tous les boutiques et tout. Enfin, c'est super.
Du coup, c'est assez intéressant parce qu'on a la même dernière place, du coup, Discoveryland.
Ouais.
Mais alors, du coup, pourquoi Discoveryland? Parce que moi, j'ai une raison bien précise.
Ah mais... Ben, moi, je dirais que c'est pas aussi travaillé dans l'ambiance. Ah. C'est pour ça?
Oui.
Non ouais, mais c'est pas aussi travaillé dans l'ambiance.
En gros, c'est le manque de cohérence. Par exemple, tu vas avoir. À la base, le land était cohérent. C'était un land qui parlait, en gros, qui voulait évoquer les visionnaires, donc Jules Verne, H.G. Wells, enfin. Je sais pas, Léonard de Vinci.
Ouais.
Et maintenant, c'est complètement cassé avec par exemple Buzz qui est en plein milieu du truc. Je sais pas pourquoi il est là. Space Mountain, maintenant dedans, c'est du Star Wars. Ça a aucune cohérence. Star Tours, au fond, encore ça, c'était là de base, ça peut passer, mais c'est beaucoup moins cohérent. Et le land est beaucoup plus plat aussi. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc ça fait que c'est un peu moins peut-être immersif de ce côté-là. Ouais.
Tu ressens moins une ambiance comme quand tu vas dans Frontierland, tu vois bien que c'est western, que c'est bien ciblé, tout ça. Là, tu ressens pas vraiment comment dire, un truc particulier.
Ouais,
c'est
un peu dispersé,
c'est plat,
quoi. Ouais, c'est ça. On comprend pas vraiment le thème précis maintenant, le lien entre toutes les attractions, quoi.
C'est beaucoup trop vague, je trouve. Il manque un truc.
Ouais. Ben, on verra ce qu'ils font à l'avenir, mais je pense que s'il y a une nouvelle attraction, ce sera plus vers Frontierland ou Adventureland, parce que là-bas, il n'y a que deux attractions dans les deux lands.
Ouais.
Alors que Discoveryland, il y a quand même pas mal de trucs. Fantasyland, c'est aussi assez plein. Mais ouais, ça serait bien qu'ils étendent un peu du coup Discoveryland.
Qui revoient leur décoration surtout dehors. C'est trop. Comme tu as dit, il n'y a
pas assez de végétation.
Non, il n'y a pas assez de végétation.
Space Mountain, c'est quand même.
Mais c'est pas ça que je te dis. C'est quand tu te balades, il n'y a pas.
Les allées sont trop vides, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça manque. C'est...
Ouais.
Je sais pas.
Mais du coup, là, on a vu un peu tout ce qui touchait au parc. Et quand on y allait, le parc fermait du coup à 21h, ce qui est assez tôt, donc ce qui laisse le temps de faire plein de trucs après.
Ouais.
Et on a passé littéralement tout le reste de la soirée, donc jusqu'à 23h quoi, au Disney Village. 23h30 juste dans le Disney Village, parce que oui, on fait partie de ces personnes-là qui ne partent pas quand le parc ferme en fait. C'est-à-dire qu'on
est resté tard,
ouais.
Mais donc, même le parc, on l'a pas quitté avant
21h. Oui, c'est ce que
j'ai dit,
parc, c'est-à-dire que le parc ferme à 21h, à 21h30 précisément, puisqu'il y a le spectacle qui joue pendant une demi-heure. Et on a dû bien rester, je sais pas, 20 minutes sur Main Street à attendre que ça ferme, quoi.
Mais plus,
et que les gens se partent de Main Street, quoi. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille de faire aussi. Si vous y allez, attendez que toute la foule parte pour être plus tranquille sur Main Street et profiter une dernière fois, quoi, avant de partir.
Ouais.
Donc du coup... Ah oui, non, petit... Je rajoute une question, du coup, que j'avais pas prévue. Qu'est-ce que t'as pensé du coup du Disneyland Hotel? Parce qu'on n'y a pas dormi, bien évidemment. Hein.
On n'a pas voilà. Les moyens.
Mais vous l'avez vu dans mon podcast précédent, on peut visiter les hôtels, on peut rentrer dedans, aller au bar, aux boutiques. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de l'ambiance de cet hôtel-là? Voilà.
Bon, ça fait ultra classe déjà. Oui. Enfin, quand tu rentres dedans.
Heureusement
t'as...
pour le prix.
Non, mais oui, c'est sûr. Mais t'as vraiment l'intra. Genre, tu rentres dedans, t'es dans un château de princesse.
Ouais,
quoi, genre,
jusqu'à
c'est...
l'odeur, quoi.
Ouais, ouais, surtout quand tu rentres dans la salle en bas, c'est ça qui c'est surtout l'odeur qui m'avait marqué là. Après, ben, vu que j'ai pas. Enfin, on est allé directement dans la boutique et après on est allé au café, c'est ça ?
Café Fantasia, ouais.
Ouais, Café Fantasia. Mais, ben, je trouve que ça fait bien. Après, de ce que j'ai pu voir, pour l'instant, ça fait entre guillemets juste hôtel chic. J'ai pas. Mis à part les boutiques. Et le café, j'ai pas trop vu un rapport à Disney. Après,
ouais,
bah, peut-être
ça,
que j'ai pas trop regardé, mais.
C'est juste. Bah, en fait, c'est. Pas vraiment lié à Disney, mais c'est lié à Main Street, en fait. Ça reste dans l'ambiance de Main Street, donc époque victorienne. Et le fait que ce soit justement un hôtel de luxe, quoi, un hôtel classe, fait que tu peux pas te permettre de mettre du Disney de partout. Il faut que ça reste sobre, quoi.
Mais quelques petits détails, parce que j'ai pas l'impression d'en avoir vu beaucoup.
Dans les chambres, par exemple, c'est décoré sur le thème de Fantasia, mais ça reste quand même très discret, quoi.
Ouais.
Par rapport à d'autres hôtels comme le Cheyenne, où là, c'est vraiment du Toy Story, maintenant. Santa Fe, c'est Cars. Là, ça se voit direct, quoi. Donc du coup, on a passé le reste de la soirée après au Disney Village. On a fait le Disney Village dans l'entièreté, en long, en large, en travers, quoi, toutes les boutiques. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, donc, que ce soit au niveau des boutiques, même les produits qu'on y trouve, l'architecture du Disney Village, l'ambiance
Bah déjà, gros point fort, c'est que ça permet de ne pas quitter Disneyland tout de suite.
Oui,
entre guillemets,
bon
ça
point.
Prolonge.
C'est ça.
Du coup, bah, tu peux y rester toute la nuit si tu veux,
ouais,
presque.
Ouais.
Donc bah, déjà, ça, c'est le plus gros point. Après,
c'est moche quand même.
Ben, c'est pas fou.
C'est moche, ouais.
C'est pas Disney.
C'est clairement
quoi.
Moche, quoi.
Ben, les boutiques, ça fait juste boutique, tu sais, comme les boutiques qu'on pourrait trouver.
Comme un enchaînement de Disney Store, quoi, sur la même allée.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait pas. Bon, après, c'est bien, tu vois, on peut quand même, comme j'ai dit, profiter encore plus, mais ça fait vraiment juste boutique, quoi. Même si on peut trouver des trucs vachement sympas dans ces boutiques, ça fait pas tout, quoi.
Puis,
y a moins l'ambiance.
Il y a aussi les produits qui se répètent pas mal d'une boutique à l'autre, tu peux retrouver un peu les mêmes choses, donc ça revient assez lassant, quoi. À part, par exemple, Disney Gallery, où là, il y a tout ce qui est figurines, donc c'est bien, c'est différent, quoi, mais... Ouais.
C'est vrai.
Donc, Disney Village, généralement, il est pas très apprécié, quoi, justement pour ça... visuellement c'est moche et il y a toujours un peu les mêmes choses, donc ce serait bien qu'il agrandisse, et c'est normalement prévu pour le futur avec des nouveaux restaurants, des trucs qu'on trouve pas forcément de partout, des boutiques, même pas Disney mais d'autres marques qui viendraient, ou je sais pas, qui les tendent, quoi, pour que
faut que ça fasse un peu plus entre guillemets les boutiques, faut qu'elles fassent un peu plus exclusivité que,
c'est ça, exclusivité et
que juste boutique, quoi.
Ça donne plus envie d'y rester, de se poser, quoi, je sais pas, pour prendre un verre ou quelque chose comme ça, quoi.
Après je sais pas ce que ça donne les cafés là-bas vu qu'on n'y est pas allé. Les cafés, les restaurants.
C'est pas terrible, quoi. Après, il y a des trucs un peu exclusifs. Par exemple, il y a le Earl of Sandwich qui fait de super bons sandwichs et qui a normalement qu'aux États-Unis. Des trucs comme ça, mais sinon, c'est pas incroyable, quoi. Ouais. Il y a le McDo, c'est pas.
Super pour l'ambiance.
Super Starbucks, enfin voilà.
Ouais.
Bon. Donc, du coup, on a fait sauter une question au début du podcast qui était ce qui t'avait frappé quand t'étais rentré dans le parc, en fait, ou arrivé même avant de rentrer dans le parc directement. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, quoi ?
Ben, c'était, comment dire, une bonne surprise de rentrer dans le parc. J'avais oublié comment c'était, quoi. C'est,
ouais.
Quand je suis rentrée, j'étais surprise, j'étais trop contente, c'était beau, c'était toujours...
C'est ultra familier, quoi. Quand tu reviens, ça te rappelle de suite ce que c'était, quoi. Avec la musique qui revient, l'ambiance, les odeurs, tout revient, quoi.
Quand on est petit, on fait les choses, voilà, qu'on refait quand on est plus grand. Et on se rend compte, on dit « Ah, ça a mal vieilli, ah, c'est pas comme quand j'étais petit, ouais. Tout ça. » Et là, quand tu reviens à Disneyland, c'est exactement comme quand t'es petit, c'est... Tu te remets direct dans la magie, tu peux avoir n'importe quel âge. T'es tout de suite en immersion, la musique, c'est génial. C'est une très très bonne surprise.
C'est vraiment ce qui fonctionne là-bas, quoi. C'est là-dessus qu'ils jouent à fond sur le souvenir, quoi. Tu vas une fois que t'es petit, tu reviens 20 ans plus tard, tu retrouves ce que t'avais quand t'étais plus petit, quoi.
Tu
le redécouvres. Ouais. Donc, du coup, on va parler un peu maintenant. Non, on va pas parler de ça.
Bah super.
Non, du coup, ce que t'as préféré en général maintenant, du coup. Donc, dans tout ce que t'as fait, est-ce une attraction que t'as préférée, un spectacle, je sais pas, ou l'ambiance, je sais pas.
Ben déjà l'ambiance, hein, comme je le dis depuis le début.
Depuis
voilà.
Le début, ouais.
C'est clairement ça. Après, le spectacle qu'on a vu,
ouais.
Je l'ai trouvé vraiment réussi.
Ouais.
C'était beau, c'était bien fait.
Il y a pas mal de gens, en tout cas dans les passionnés, c'est un spectacle qui divise, quoi, parce qu'il y a ceux qui l'adorent, comme moi, il y a ceux qui le trouvent... un peu bof, quoi, dans le sens où la scène peut être parfois un peu vide, le fond est pas vraiment exploité, c'est classique, c'est les chansons du Roi Lion encore une fois qui se répètent, donc
bah après c'est un spectacle entre guillemets de théâtre, donc c'est normal,
c'est ça, c'est un show
mais...
à la Broadway, quoi, c'est un peu une condensation de la comédie musicale qui a là-bas, quoi.
Moi je trouve que ce soit, après c'est, ils vont pas faire un truc de 4 heures
non, clairement,
avec
c'est pas
les feux d'artifice,
un show,
le feu
pas,
et tout,
ouais,
quoi.
Ça peut pas durer plus de 30 minutes, quoi.
Voilà, donc là c'est largement suffisant. Moi, je trouve quand même qu'ils occupent bien la scène. Il n'y a pas de...
Ouais.
Certes, le décor n'est pas incroyable. Ils jouent surtout avec la lumière, de ce que je me
rappelle.
C'est
ça, c'est la lumière, ouais.
La lumière, après, ils ont
la
deux,
lumière,
trois...
les costumes qui jouent beaucoup, de l'acrobatie un peu aussi.
Ouais, surtout. Mais après, oui, ils avaient deux, trois props, ça. Ils avaient ramené à un moment une espèce de
des
de
éventails
tissu.
Géants.
Ouais, ouais. Ça, c'était vachement joli, je trouve.
Ouais, ouais, ouais.
Et bah, bien évidemment la musique, mais après moi je trouve que c'est largement suffisant, quoi.
Musique,
c'est un spectacle,
qui est...
quoi.
Même la musique est un peu différente, c'est réorchestré.
Ouais.
Par exemple, je sais pas, Je voudrais être roi, c'est un peu en version disco, quoi, donc ça change un peu, il y a des réorchestrations, quoi.
En tout cas, je trouve que ça a été bien réinterprété, les musiques,
ouais.
Très bien fait.
Parce que la plupart des gens, justement, pour cette saison-là, ont préféré l'autre spectacle, qu'on a un peu aperçu en passant, quoi,
Ouais.
qui est devant le château avec les quatre scènes, où t'as les chars et les personnages qui arrivent, quoi.
Mais ça, de ce qu'on a vu, ça avait l'air un peu...
plus enfantin.
Ouais, beaucoup plus enfantin, et c'est pas autant...
Ouais.
Pas travaillé, mais moins fun que l'autre, moins beau que l'autre.
Ouais, bah c'est sûr que l'autre, on est vraiment dans une salle de spectacle, quoi, donc c'est vraiment...
L'autre, ça ferait presque limite pas bébête, mais un peu... Quand il y a,
là,
y a
alors
Mimi
là,
et tout.
là,
Non, non, mais pas
je
bébête.
Vois déjà la vague de gens
Non, mais moi
qui
aussi,
vont venir te
complètement.
taper
Les
dessus.
haters, comme on dit. Non, mais je vois bien... Enfin, je veux dire, là, y a... c'est plus
Bon,
pour
là,
les
t'es vraiment
enfants.
en train de critiquer ce que pas mal de gens considèrent comme le meilleur show, genre depuis la création du parc.
Tant
Genre...
pis. C'est pas grave.
Mais
Non,
je
mais...
préfère le show du Roi Lion.
Après, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas avoir un vrai point de vue. Mais de ce que j'ai aperçu, ça avait l'air vraiment plus pour les enfants que le spectacle qu'on avait, nous.
Oui, bah clairement, c'est un peu plus enfantin. Après, y a pas mal de trucs qui sont assez bien. Parce que tu es au milieu de la scène, en fait, et tu sais même plus où regarder. Tellement il y a de trucs autour de toi, donc tu es obligé de voir le show plusieurs fois pour vraiment tout voir. Tu as un passage où tu as, par exemple, des joueurs de. Je sais pas comment dire, des genres de tam-tam, en fait, indiens, qui sortent du château. Et c'est des personnes qui ont vraiment été castées en Inde, en fait, qui viennent d'Inde, et qui jouent vraiment de leur instrument comme ça en temps réel. Donc ça, c'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que le show du Roi Lion, il est quand même beaucoup plus adulte et c'est un vrai show, quoi. C'est dans une vraie salle.
Ouais, voilà. Après, bah voilà, tu m'en as parlé, mais tant que je l'ai pas vu, ce show-là, je pourrais pas dire...
C'est ça. Ben, il revient l'été prochain.
Eh ben, si j'ai de l'argent, on verra.
Ben, on verra. Donc du coup, ce que tu as le moins aimé, on en a déjà un peu parlé, mais maintenant, dans globalement, quoi.
Alors,
ça peut même être au niveau de l'organisation, de, je sais pas, ça peut tout être, en fait.
Ben, ce que j'ai moins aimé, c'est que les personnages soient enfermés comme
justement,
ça.
Ouais, justement, ouais.
Parce que quand j'étais petite, ils se baladaient tout le temps, tu pouvais, genre, taper la discute avec Briquet et taper une photo avec lui.
Vraiment ce côté, tu le croises par hasard dans le parc, tu prends une photo, alors que maintenant, ils sont à des endroits bien précis, il faut toujours faire l'attente.
Telle heure et tout, je trouve ça vraiment dommage. Là, ça, par contre, quand on parlait de magie, là, ça casse la magie, vraiment.
Je suis assez d'accord.
Genre, la reine de cœur, elle va faire...
C'est ce qui est le moins bien géré à Disney. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une soirée, les personnages, c'est impossible. Il y a toujours une heure de queue.
C'est dommage. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs.
Ouais, ben c'est pour tout ce qui est organisation, quoi. Pour que les gens soient sûrs de rencontrer tel personnage à tel moment.
Mais justement, c'est ça aussi, l'effet de surprise, de pas savoir sur qui tu vas tomber, quoi.
Ça, c'est un truc que beaucoup de fans aimeraient bien, c'est que les personnages se baladent comme ça dans le parc.
On va lancer une pétition. On va faire la manif à Disney pour le retour des personnages.
Ouais, mais clairement... ça, c'est un gros défaut. Et d'ailleurs, c'était un de tes objectifs de la journée, faire des personnages.
Ben ouais.
Et au final, on n'a rien pu faire parce qu'il faut attendre et il faut tomber sur le bon personnage. Et...
Puis même,
il
n'y
a pas beaucoup de choix, quoi. Aussi, c'est des personnages très classiques qu'il y a, Mickey, voilà, Daisy.
Alors qu'avant, tu pouvais rencontrer tout le monde. Enfin, vraiment, j'avais croisé genre Lilo de Lilo Stitch.
Oui, c'est ça. Il y avait même des personnages, je sais pas, de Robin des Bois, des trucs complètement improbables.
Ouais, je m'en rappelle. Il y avait Tic et Tac qui se baladaient toujours ensemble et tout. Et là,
je m'en souviens, Tic et Tac.
Mais là, il n'y a personne, quoi.
Donc ça, du coup, grosse déception,
Ouais, complètement.
Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de la journée et de la vie sur le parc, on va parler un peu du futur. Et donc, ce serait intéressant de voir quelles seraient tes attentes pour l'avenir du parc, par exemple, en tant que non-passionné, ce que tu aimerais bien voir arriver, ou ce qui t'attire le plus dans ce qui a été annoncé aussi. Du coup, on en a un peu parlé avant.
Bah, du coup, on va commencer par ce qui a été annoncé.
Ouais, donc du coup, je rappelle pour les auditeurs, on a le Land Marvel, le Land Star Wars et le Land Frozen, donc la Reine des Neiges, qui arriveront au Walt Disney Studio avec un lac qui sera au milieu, en fait, et les trois lands seront disposés autour, en fait.
Et c'est prévu pour quand, ça?
C'est entre 2021 pour Marvel, 2021-2022, et le reste entre 2023-2024.
C'est dans 2025. Ultra longtemps.
Ouais, mais il faut creuser un lac, hashtag creuse ton lac, voilà, les gens comprendront. Il faut creuser un lac, il faut tout construire, quoi. Donc,
c'est sûr.
La zone Marvel ouvre avant parce que elle est là où il y avait déjà des trucs, en fait. Ils sont juste en train de rethématiser, détruire pour reconstruire.
Ouais. Ben, en vrai, je dirais que le Land Marvel, ça m'intéresse pas mal.
Ouais.
Pour voir ce qu'ils vont faire. Ça m'intrigue de savoir ce qu'ils vont faire, en fait. Parce qu'après, la Reine des Neiges, on sait, quoi. On est au courant. Que ça va être. Moi je pense que
la Reine des Neiges, ça sera très ressemblant ce qui est déjà à Fantasyland, en fait.
Au niveau de l'architecture, ça va être un peu un Blanche-Neige, un Peter Pan, au niveau de l'attraction.
Vraiment mieux, je pense.
Oui, mais parce qu'il y a des années aussi.
Un Pirate des Caraïbes, mais beaucoup plus court, quoi, et sur la Reine des Neiges, quelque chose comme ça.
Donc, ça, c'est plutôt un truc auquel on s'attend, j'ai l'impression.
Oui, c'est une attraction classique Disney, comme on l'imagine quand on dit attraction Disney, quoi. Ça suit l'histoire du film.
C'est plus prévisible.
Voilà.
Alors que même
après, ça n'a pas été annoncé. On sait pas vraiment ce qu'il y aura pour la Reine des Neiges, mais il y a des grandes chances que ce soit ça, quoi, parce que c'est déjà dans un autre parc.
Surtout que c'est entre guillemets plus pour les enfants.
Il faut que ce soit pour la famille, pour tout le monde, donc ils peuvent pas se permettre de faire un coaster ou quelque chose comme ça, comme beaucoup de fans le voulaient, quoi.
Enfin, je veux dire, sur la Reine des Neiges,
quand la rumeur était sortie du Land, beaucoup de personnes voulaient qu'il y ait un coaster la Reine des Neiges, mais un truc vraiment comme il y a Animal Kingdom aux États-Unis, Expédition Everest. Les enfants, clairement, pourraient pas le faire, quoi, donc c'est complètement débile.
C'est comment casser le rêve de la Reine des Neiges.
Voilà, c'est ça, c'est. T'es content, t'es petit, tu vas dans le Land de la Reine des Neiges, tu vas devant l'attraction, et ben non, c'est pas possible, quoi. Donc,
c'est complètement... Tu peux pas te créer des souvenirs à la Reine des Neiges, quoi.
Donc, ouais, ça, c'est logique.
Et donc le Star Wars aussi, ça m'intrigue, vu que tu m'en as parlé avant.
Ouais.
Surtout, tu m'as dit, c'est avec le plus d'animatronique, c'est ça ?
Ouais, qui a jamais été ouais. dans aucune attraction.
Ben, voir quoi. Comment ils vont le
faire.
Le double,
tu vois, Pirates des Caraïbes, à peu près, les animatroniques, le nombre, mmh. ce serait à peu près le double, quoi.
Ben, voir s'ils les réussissent, parce que vu qu'il y en a énormément, qu'ils les bâclent pas.
Ça, oui, ça sera des... Qu'ils prennent non, bien ça, le temps. Ça, c'est sûr que ce sera des animatroniques nouvelle génération, quoi, ultra fluide. Pour donner un peu une comparaison, par exemple dans Pirates des Caraïbes, il y a deux animatroniques qui sont vraiment différents des autres et un peu plus haut en termes de technologie. C'est celui de Barbossa à la fin, quand mm-hmm. il donne un coup d'épée, qui est ultra fluide par exemple, et Jack Sparrow quand il est sur sa chaise à la fin, avec tous les mouvements de doigts, de bouche. De... Ouais. Là, on s'en rend pas bien compte, mais ça sera encore au-dessus de ça. Quoi.
C'est vraiment... Moi, je suis ultra pointilleuse là-dessus, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est pas un vrai putain de robot qui bouge et qui fait des trucs ultra ouais, fluides, ouais, ouais.
Ça, mais ça existe vraiment. Il y a des attractions, ben, justement dans le monde de Star Wars, où il y a. Une attraction qui a déjà ouverte qu'on ne devrait pas avoir, où tu pilotes le Faucon Millenium en fait carrément. Et du coup, dans le pré-show, donc dans la file d'attente, la scène d'avant, il y a un animatronics qui bouge de manière ultra fluide quoi. C'est...
Ouais, bah, va falloir me convaincre hein, parce que vraiment, ouais. faut que ce soit comme les humains, voilà, après, en termes de fluidité.
Ce qui me fait assez peur avec ces landes là, c'est que ce soit des versions très raccourcies de ce qu'il y aura dans les autres parcs. Et que ce soit beaucoup plus petit que ce qu'il y a ailleurs, par exemple que la zone Star Wars ce soit aussi grand, un peu plus grand que Ratatouille quoi, que la zone de Ratatouille. Et ça, ce serait vachement dommage parce qu'on a beau avoir une super attraction, s'ils arrivent plus à faire de Londres ultra immersif comme Frontierland ou des trucs comme ça, c'est un peu dommage quoi.
Ouais, ce serait dommage. Après, on peut leur laisser entre guillemets la chance de nous surprendre.
C'est ça, ouais. Bah aux États-Unis, le Star Wars là, et les deux ont ouvert. Il y a qu'une attraction sur deux qui ont ouvert. Ça a été d'ailleurs un petit flop, ils s'en remettent pas parce qu'ils ont investi des milliards pour au final pas autant de visites que ce qu'ils espéraient. Et c'est ultra immersif quoi, c'est-à-dire que t'as vraiment un land de la taille de Frontierland à la limite,
ouais.
que sur du Star Wars avec plein de détails, t'as un marché entier couvert où tu peux passer et tu rentres dans les magasins. Par exemple les produits, c'est pas forcément la peluche, la Reine des Neiges, t'auras que du Star Wars.
Ouais, où tu te rends compte, genre.
Voilà, t'as l'impression que c'est par exemple un habitant de la planète qui l'a construit. C'est pas.
Ça, c'est grave cool.
Voilà. Donc, on espère avoir un truc de ce niveau-là, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, autre question qui est aussi liée à ça, ce serait tes rêves d'attraction, mais vraiment à toi, quoi. Pas dans ce qui a été annoncé.
Ben, Maxime est très au courant.
Très au courant, effectivement.
Une attraction Coco.
Coco. J'aimerais beaucoup une attraction Coco aussi, ouais. C'est vraiment un super Pixar. Et
il y a tellement
de choses. On s'imagine de suite l'attraction, en fait, ouais. avec les couleurs, le passage dans le monde des morts,
non, c'est fou.
Les animatroniques, ce squelette, c'est de suite, on l'imagine, quoi.
Non, c'est fou. Bah, justement, moi, j'aimerais bien créer mon attraction Coco. Ouais. J'avais pensé, en fait, quand j'en parlais, c'était comme une attraction.
Toi, tu voyais ça comme une attraction à pied.
Voilà. Complètement. C'est-à-dire ce serait dans un bâtiment, une attraction à pied. Après, il y a énormément de soucis vu qu'on ne peut pas faire une attraction à pied et s'attendre à ce que tout le monde soit tranquille et ne touche à rien. Quoi.
Déjà, s'il y a une attraction à pied, ça sera forcément avec des vitres. Donc ça casse de suite
l'immersion. Moi, je ne veux pas les vitres, c'est ça.
Mais ça, c'est pas possible du coup.
Mais oui, justement, ce que je t'ai dit, on ne peut pas...
Mais non, ça serait clairement pas possible d'investir des milliards dans un truc où tu peux clairement tout casser. Quoi.
Bah ouais, je sais, c'est pour ça que ce serait ultra dommage. Après, celle que j'ai imaginée, c'est l'attraction
parfaite. Après, dans un bateau, tu vois, ça serait nickel. Ou dans un véhicule comme Peter Pan, où tu survoles un peu le monde des morts, ou un truc comme ça, ça serait pas mal. Quoi.
Bon, mais ce que j'avais en tête, après, voilà, c'est de l'attraction parfaite dans un monde de rêve. Oui, donc oui, ça n'existe pas. Ouais. Mais,
on fera peut-être un podcast d'ailleurs, une fois là-dessus, pour plus tard, où chacun aura imaginé son attraction de rêve, quoi.
Voilà, après moi ce que j'aurais imaginé, donc déjà voilà, l'attraction Coco c'est sûr,
ouais.
Et donc dans celle que j'aurais aimé, c'est un truc immersion à 100%,
ouais.
Parce que Coco c'est tellement beau, c'est tellement toutes les couleurs et la lumière et tout, t'as vraiment envie d'y être quoi. C'est bon, même s'ils sont tous morts, ben t'as envie d'y être dans le ouais. sens, c'est beau quoi.
Bah, c'est un peu ça le côté Tim Burton où le monde des morts est plus vivant que le monde des vivants quoi.
Bah, vraiment, t'as vu, ils font la fête, ils sont contents tout le temps. Bon,
truc qu'on retrouve aussi dans Phantom Manor d'ailleurs, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, mais le monde des vivants dans Phantom Manor, donc foutre la partie dans la maison, est ultra triste, ultra mélancolique.
Oui,
alors
ça.
Dès qu'on passe dans le cimetière, bah, c'est comme dans les films de Tim Burton, ça change complètement et tout est joyeux,
mais même
la musique s'emballe et ouais.
Quand ils font quand ils dansent tous là, oui, tu sais, ça, voilà, ouais. ils s'éclatent quoi.
Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc on en a fini avec les questions principales. Du coup, deux dernières petites questions. Un, est-ce que tu reviendras ? Et de deux, est-ce que le prix te semble du coup justifié ? Donc on parle du prix qui est en vente au guichet, donc 100 euros environ pour un jour de parc, même s'il y a moyen de trouver des prix beaucoup moins chers sur internet en s'y prenant bien quoi.
Ou en ayant quelqu'un qui possède la carte.
Le pass annuel, le fameux.
Voilà. Bah, est-ce que je reviendrai? Évidemment que je reviendrai. Bon, pas tout de suite parce que là, c'est un peu compliqué. Mais oui, j'y reviendrai, c'est sûr, clairement. Surtout quand...
Quand tous les lands seront ouverts, quoi, les nouveaux lands, ça pourrait être une occasion d'y
Ben,
retourner.
surtout, mais après, je pense,
Ou
même
même avant,
avant,
oui, il y a
oui,
moyen.
vu qu'ils reviennent, ils ouvrent dans quand même quelques temps, je
Oui.
reviendrai avant, c'est sûr.
Oui.
Et aussi parce que j'aimerais bien tester de faire soit Halloween, soit
Ouais, bah Halloween et Noël, c'est
Noël.
vraiment les deux saisons classiques, quoi. Là, le Roi Lion, c'est des saisons où il y a des super spectacles, mais au niveau de la déco, il n'y a rien, quoi.
Ouais, voilà.
Alors que là, Halloween, Noël, Main Street est super bien décoré, t'as l'ambiance, à Noël, t'as les musiques de Noël sur Main Street, la neige qui tombe des fois, enfin,
Ah ouais, non, mais voilà, c'est pour ça aussi.
c'est Noël à Disney, c'est un classique, quoi.
Bah voilà, ce sera une des occasions. Et pour le prix, bah évidemment que ça les vaut. C'est 100 euros, mais
Ouais.
c'est limite, entre guillemets, rien, parce que je trouve qu'il y a tellement de
C'est quand même
travail.
100 euros à
C'est
lâcher
cher,
pour
non, c'est cher.
une journée à 100 euros quand même.
C'est sûr, mais 100 euros, bon après, comment dire, c'est 100 euros, mais c'est parce que derrière, il y a du bon travail. Je veux
Oui.
dire, c'est tout Disney. Après, si tu payes 100 euros pour une fête foraine à la con,
Oui, non,
ok.
mais oui.
Mais là, c'est,
Donc
comment
là,
dire, c'est
demain, tu serais
correct.
prête, si tu avais le moyen, d'y aller pour 100 euros, quoi.
Ben moi je trouve que c'est... Après Disney ça reste exceptionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le pass
Parce que tu as
annuel.
des passes annuelles qui sont aux alentours de 250 euros, par exemple, si je dis pas de bêtises. Donc, en 3 jours, c'est rentabilisé, quoi.
Oui c'est sûr, mais pour quelqu'un comme moi qui...
D'ailleurs, les passes annuelles sont très rentables, et ça, j'en avais déjà parlé, même le plus cher qui est à 400 euros. 400 euros, bon, ben, en 4 visites, en 4 jours, c'est rentabilisé. Donc, il y a juste à y aller 4 fois,
C'est sûr.
et voilà.
Mais après pour quelqu'un comme moi qui va très très peu...
C'est ça, oui, mais tout ça
C'est
pour dire que
sûr
les
que
passes
voilà.
annuelles, c'est quand même assez à perte pour eux. Et ils se font plus de l'argent sur tout ce qui est produits dérivés,
Faut que
ce
tu
genre de
demandes un
trucs-là, quoi.
partenariat avec Disney pour qu'il t'offre ton pass annuel.
Ah oui, bah oui, hein. On pense aux fameux insiders, hein, les vendus d'Internet. Hein. Et on rigole, bien évidemment. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura intéressé, que le concept vous aura intéressé. On remercie bien évidemment notre invité du jour, Éléonore.
Eh bien, avec plaisir.
On peut d'ailleurs l'applaudir parce que c'était son tout premier podcast.
Yay!
Ouais! Ouais! Nickel! Donc j'espère que vous avez apprécié encore une fois. Nous, on se retrouve dans un mois, dans 2 mois, dans 10 mois, je sais pas, la semaine
Dans 10
prochaine,
ans.
on verra. Très bien, donc c'est le moment de finir. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Passez une bonne soirée. Je sais pas si tu as un dernier mot pour la fin ou quelque chose.
Bah bonne soirée.
Ben nickel,
À
c'est
plus.
parti. Allez, à plus.